L'émission qui va suivre vous est proposée en partenariat avec la librairie La Procure.
Culture Club, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Christophe Maury.
Quand même rappeler aujourd'hui que c'est la Sainte Isabelle, on a tous des Isabelles dans le cœur.
Absolument.
Tout à fait.
Bonne fête aux Isabelles, bien sûr.
Alors aujourd'hui, Jean-François, nous recevons Christine Pellistrandi. Bonjour Christine.
Bonjour Christophe.
On vous écoute tous les jours avec l'émission Le Sens des Mots. Vous êtes une spécialiste de la Bible et de la littérature antique. Vous avez longtemps été chercheur au sein du CNRS, à la section latine de l'Institut de Recherche et d'Histoire des Textes. Vous enseignez l'Histoire Sainte au Collège des Bernardins et vous avez écrit de nombreux livres. Et votre nouveau s'appelle « Le Moi proclat femme de Ponce Pilate ». Alors il s'agit, on ne sait pas s'il s'agit d'un roman, pas d'un roman, d'une histoire possible, imaginée. En tout cas, nous avons cette jeune proclat, parce qu'elle est très jeune, elle n'a pas d'enfant et finalement, elle est toute jeune mariée de Pilate. Non,
on n'en sait rien.
Non, mais on n'en sait rien. On n'en sait rien de tout parce que vous nous emmenez quand même sur un chemin où finalement on n'en sait rien.
Écoutez, il y a un seul verset dans un seul évangile la concernant. Donc évidemment, la documentation est très courte. Surtout qu'il ne faut pas se baser sur les textes apocryphes qui sont très tardifs et qui ont repris et qui ont multiplié les légendes, les histoires, les romans.
Et après, mais c'est quand même formidable que ça soit cité dans l'évangile, déjà.
Oui,
ça a toujours été un peu étonnant quand on lit la Passion et tout d'un coup, on a cette intervention. Et rien n'en est dit, c'est très, très sibyllin, mais évidemment c'est normal qu'on ait envie après d'imaginer un peu.
Voilà.
Alors pourquoi s'appelle-t-elle Proclat ?
Ah ben c'est justement, j'ai tiré son prénom des textes apocryphes, en particulier il y a les Actes de Pilate, le Chant du Coq, tout cela s'est publié dans la Pléiade, justement dans les écrits apocryphes. Il faut dire que les volumes de la Pléiade, c'est une mine extraordinaire.
Formidable.
Pour tout ce qui concerne la spiritualité des premiers siècles chrétiens.
Alors normalement, Proclat, il arrive à la fin de l'évangile, puisqu'on est au moment du procès. Et là, c'est au début de votre livre. C'est-à-dire que l'idée, c'est que nous allons partir de ça et nous allons suivre tout le procès et la crucifixion, mais on va pas rentrer tout de suite dans les détails. Donc Proclat, elle est jeune, elle vit dans son palais, elle a ce songe incroyable et elle assiste au procès et elle voit son mari qui se lave les mains. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'on a le lavement des mains et plus tard, on aura le lavement des pieds.
Oui.
Et ce sont deux lavements qui peuvent être en opposition ou en parallèle. Toujours est-il que lui, il est un peu comme Darmanin avant les Jeux Olympiques. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que ça se passe bien, qu'il n'y ait aucun mouvement de foule. Oui. Il est sur les charbons ardents.
Ah, tout à fait. C'est bien ça le problème. Alors, elle, moi, je n'insiste pas tant sur sa jeunesse, mais sur le fait qu'elle est la femme du gouverneur. Donc, elle incarne tous les bienfaits que la civilisation romaine, à travers l'Empire romain, apporte au monde entier. Et par conséquent, elle incarne le droit, avec un D majuscule, la justice, vraiment les bienfaits de la civilisation. Il y a une éthique romaine. Et d'ailleurs, une éthique romaine qui montre une certaine tolérance vis-à-vis des religions des peuples soumis par Rome. Et pour que l'Empire vraiment incarne les bienfaits de la civilisation.
Dans votre premier chapitre, justement, je trouve que c'est très intéressant. On voit que vous connaissez bien l'Antiquité latine. Parce que vous nous faites rentrer dans la psychologie d'une femme qui ne vit pas régulièrement avec son mari. Vous nous dites, en fait, en gros, elle est plutôt basée à Césarée de Philippe, parce que c'est plus confortable.
Le couple est installé à Césarée maritime, en fait, et vient à Jérusalem, dans le palais d'Hérode, pour les fêtes.
D'accord.
Parce que c'est un moment dangereux qu'il faut être là.
D'accord. Il faut surtout être là, et puis lui joue sa place.
Ah oui, tout à fait.
Donc il est vraiment très stressé, et elle ne le voit pas, elle erre dans le palais, et puis elle assiste à cette condamnation de ce roi des Juifs. Elle comprend absolument rien, sinon qu'il est innocent. Et alors, elle va sortir du palais. et c'est le moment, c'est vraiment le début de votre intrigue, c'est-à-dire qu'elle se cache, elle se voile, et pour la première fois, elle sort seule, sans escorte, sans mari, dans les rues de Jérusalem. Je vous cite, « Non, dit-elle, je ne suis plus la femme du procurateur, je me dépouille de tout pouvoir, je jette loin de moi la folie violente, je hais la criminelle justice. Je veux mettre mes pas dans ceux du condamné pour dire au monde que le bien peut exister. » Proclat rejoint l'invisible farandole des témoins éternels de la vérité. Et alors là, vous faites un truc qui est assez épatant, c'est que on va avoir toutes les femmes de l'Évangile voilà. qui sont rassemblées.
C'est vraiment astucieux, ça. Hein, à partir, pourtant, dans ce moment tragique, eh bien, on va revenir effectivement toutes les femmes de l'Évangile. C'est bien.
Donc elle ne connaît rien à rien.
Non, bien sûr.
Elle est assez épatée par cet homme souffrant. Et puis, elle l'entrevoit hein, à travers la porte quand il passe.
Oui.
Elle l'entrevoit, oui. Peut-être que leurs regards se croisent, et on pense à ce verset, il le regardait
oui.
et il l'aimait.
Oui.
Vous y avez pensé, bien sûr.
Oui, et puis l'autre verset, quand Jésus regarde Pierre
qui l'a trahi,
qui se met à pleurer.
Alors, on a toutes les femmes qui sont là. Alors, il y en a une qui s'appelle Lia. Lia lui explique qu'elle habitait à Naïm, pas très loin de Nazareth, un endroit agréable dans la Grande Plaine. « Moi aussi, dit-elle, moi aussi, je vous cite, j'avais connu une position sociale élevée qui me permettait de rencontrer beaucoup de monde. Mon mari mourut prématurément et je devais faire l'apprentissage de la vie d'une veuve reléguée à la maison. Mais dans mon malheur, j'avais la chance d'avoir un fils et donc avec un homme à côté de moi, je me sentais bien protégée. Hélas, une fièvre maligne l'emporta en quelques jours. Toute la ville m'accompagnait pour le mettre en terre. » En s'associant à ma douleur, et c'est là où Jésus ressuscite le Fils. Donc, vous donnez déjà un prénom à cette femme.
Oui, mais alors.
Mais vous donnez des prénoms à toutes ces femmes.
Oui, parce qu'il fallait les incarner.
Oui.
Et justement, ce que j'ai apprécié en écrivant ce livre, c'est la grande liberté que j'avais de me servir des personnes qui sont citées dans l'Évangile, en me disant dans le fond, ils ont rencontré Jésus. Qu'est-ce que l'on connaît de la scène où il y a eu ce dialogue avec Jésus, puis après, on ne sait plus du tout ce qui s'est passé. Mais je me suis dit, forcément, leur vie a changé, puisqu'ils ont rencontré Jésus. Et je voulais donc les rassembler sur le chemin du calvaire, qui était une manière de les rassembler toutes à ce moment-là.
Elles sont rassemblées en un verset, c'est-à-dire oui. que dans le chemin de croix, à un moment, il pleure sur les femmes de Jérusalem.
Et oui.
Donc elles sont ensemble.
Elles sont ensemble, et il fallait quand même leur donner une histoire et leur donner des prénoms. Alors ça, c'était très facile parce que ce sont des prénoms de l'époque, de tous les mais que j'ai inventé bien entendu, parce que la servante de Pierre, par exemple, qu'est-ce qu'on nous dit d'elle, la servante de Pierre, enfin la servante du grand prêtre, pardon, qui identifie Pierre et qui oui. lui dit, mais toi aussi, je te reconnais à ton accent.
Je suis très sensible à ça, à ce que vous venez de dire, je souligne pour les auditeurs. Effectivement, enfin, la femme dont on a ressuscité le fils, elle ne peut pas simplement reprendre sa vie d'avant comme ça.
Voilà.
Il est sûr qu'elle a forcément continué à se... Jésus ne l'a pas appelé dans son groupe de disciples proches, comme il appelle certains, mais il l'appelle pas tous. Le monde.
Oui.
Il guérit un lépreux, il ne dit pas de venir non plus après, etc. Mais les gens qui ont eu cette expérience avec Jésus, forcément, continuent à réfléchir et à se demander qui il peut être.
Quoi. Marie et Marthe, les sœurs de Lazare, elles sont obligatoirement là.
Ah oui, oui, oui. D'ailleurs. Oui, elles sont là.
Oui, mais là, je trouve c'est assez naturel que Marthe et Marie soient là, parce que là, pour le coup,
oui,
on a leur prénom.
On a leur prénom.
Et ouais. on a un dialogue avec Jésus, alors que même la Samaritaine, on n'a pas son prénom. Et effectivement, on se demande si ce qu'a fait la Samaritaine après la rencontre au puits. Qu'est-ce qu'elle a vécu? C'est vrai que ça, on a envie de savoir.
Alors, je l'ai introduite,
oui, j'ai vu.
Mais sous une autre forme, puisque...
Oui, le lin, là, c'était... on vous dit qu'elle savait très bien fabriquer, surtout laver... Enfin,
laver d'une blancheur éblouissante.
Voilà.
Et alors, elle lavait son linge au puits de Jacob, et elle, samaritaine, se retrouve dans les boutiques, et Nicodème va acheter, et a le souci d'aller... plutôt, c'est Joseph d'Arimathie. Nicodème, lui, c'est les... les aromates. Mais Joseph d'Arimathie va aller acheter un grand linceul et...
C'est le linceul fabriqué, voilà, nettoyé en tout cas, par la Samaritaine.
Avec l'eau vive.
C'est bien trouvé, franchement.
Alors, on parlait des femmes de Jérusalem, et vous avez ce joli titre de votre chapitre qui s'appelle « Les endeuillées de Sion », qui pourrait être le titre, finalement, de votre livre, « Les endeuillées de Sion », parce que c'est vraiment les femmes qui sont là. C'est-à-dire que Procla est un peu le fil conducteur.
Tout à fait, tout à fait, c'est tout à fait ça.
Ce qui vous a intéressé, c'était les femmes de l'Évangile.
Oui, c'est vrai.
Et comme elle n'y connaît rien, il faut lui expliquer à chaque fois. Et donc, c'est bon pour le lecteur.
Oui, là, vous parlez de Procla, hein, pas de Christine.
Oui, oui.
Mais oui. Ah oui, je parle de Procla, oui, évidemment. Oui. Mais
justement. Elle
demande constamment aux femmes qui sont là, juives, et qu'est-ce qui se passe, pourquoi c'est comme ça. Elle a besoin d'être initiée.
C'est la matrice. D'ailleurs, je vous cite encore, elle parle à Jeanne et elle dit « Tu sais, Jeanne, répondit Procla, le désir profond que j'ai de comprendre et de partager ta foi. Nos chemins si différents se sont croisés. Je reçois comme un don de Dieu, ton Dieu, ce Dieu que j'essaye de découvrir, tout ce que tu m'apprends à travers la vie de ces témoins. » Donc, on a la vie VIE et on n'a pas, et non pas la vie AVIS de ces témoins. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un ressenti, mais on est vraiment dans une expérience et une histoire.
Oui.
Et c'était ce que vous vouliez dire.
C'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire. Si vous voulez, je voulais beaucoup insister sur cette opposition entre une civilisation qui apporte une éthique, un bien universel, et qui est face au problème de la révélation et au problème de la foi. On a d'un côté la raison raisonnante, le droit, la justice, des valeurs morales. Et de l'autre côté, on a la rencontre en tête à tête avec le Christ à travers ses femmes.
Et alors, on a une sorte de confession de Pilate vers la fin,
où le
pauvre, il erre seul dans le palais, sa femme est partie, et puis reviendra-t-elle? Il n'en sait rien. Est-elle en danger? Il n'en sait rien. Et je vous cite, « Je suis en quête de sérénité, se disait-il. Mon cœur soupire et s'inquiète en vain. Mon esprit se débat en désordre. Je me sens languissant et frémissant d'une fièvre qui n'est pas raisonnée. Ai-je commis un crime qui serait indigne de pardon ? Rome n'est-elle pas la mère et la tutrice des peuples qui tous, comme des enfants, se reposent sur son sein ? Liberté de Rome, j'ai agi pour toi. Gloire de l'Empire, j'ai contribué au commandement de nos armées selon ma mission. Une naturelle sollicitude et le sentiment du devoir m'ont porté à remplir les fonctions du service de l'Empire avec diligence et même une certaine empathie. J'ai respecté le protocole du tribunal et les règles du droit. J'ai fait preuve de bonne volonté. Unis autour de leurs grands prêtres, les accusateurs se tenaient debout et ils réclamaient à corps et à cri la peine capitale. Ils étaient dehors, à l'extérieur. J'ai même quitté mon siège d'ivoire et je suis sorti en personne du tribunal plusieurs fois de suite pour répondre à leurs requêtes, alors que, sous prétexte de rester pur pour célébrer leur fête, ils refusaient de fouler le sol du prétoire. Donc là, le pauvre, il a donné... Il a tout fait et il a tout mal fait.
Oui, j'ai un de mes amis qui est pédopsychiatre, qui a lu ce livre et qui m'a dit, dans le fond, il y a le portrait du Pilate qui refoule, dans le fond de sa conscience, ce qu'il ne veut pas voir. Et il y a au contraire Procla, qui, elle, s'est défoulée en sortant et en rencontrant les femmes de Jérusalem.
Mais c'est un des points intéressants de votre livre aussi, je trouve. Vous l'avez dit plusieurs fois. Nous, on a tendance en fait à blackbouler Pilate comme un lâche et un criminel. Hein. Mais c'est important de rappeler que Rome avait une action civilisatrice et qu'effectivement, il y avait aussi une vraie morale. Certainement pas parfaite, mais il y avait vraiment un sens du devoir. Et Procla exprime bien cette recherche que les Romains ont aussi à travers Jésus.
Tout à fait.
Et puis alors, le personnage principal, mais qui est vraiment dévoilé à la fin, mais on l'attend pendant tout votre livre, Moi, Procla, femme de Ponce Pilate, publié au Cerf, Christine Pellistrandi, c'est la Vierge Marie. Et on a ce moment de la Pietà. Quand on lui descendit du gibet le corps de son fils, Marie, la mère de Jésus, s'approcha. Elle commença par embrasser sa main avant de l'examiner et de contempler les stigmates de sa crucifixion. Elle serra sur son sein la dépouille inerte. Son réflexe maternel lui faisait retrouver l'agilité de ses doigts pour chercher les plaies sanglantes, comme s'il s'agissait de vite soigner les égratignures d'un petit garçon qui était tombé. Non, ce n'était plus le temps de l'enfance. Elle regardait les tempes blessées par la couronne d'épines, ses lauriers de dérision, ce diadème de gloire invisible aux yeux du monde. De son fils, naguère si beau, la mère caressait de ses tendres mains les membres rigides et livides avant de pouvoir enfin laisser couler ses larmes comme une rosée ruisselante le long de ses joues. Toutes les femmes qui étaient là vinrent s'incliner devant Marie et son fils, celles qui avaient été guéries par Jésus. Les veuves qui avaient assumé leur deuil et continuaient à vivre embrassaient les pieds de Jésus, geste que fit aussi celle que les gens de la bonne société avaient voulu lapider sous prétexte d'adultère. La petite servante qui avait pris la place de Pierre, comme l'envoûtante danseuse qui s'en voulait d'avoir indirectement participé à la mort de Jean-Baptiste, d'une même ferveur, contemplèrent ses yeux clos et son visage serein. Baruch, le neveu de Nicodème, se répétait les paroles que Jésus lui avait dites lorsqu'ils avaient parlé ensemble. Marthe et Marie, qui aimaient tellement recevoir Jésus, étaient là, bras ballants, éprouvant le sentiment douloureux de ne plus servir à rien. La femme au flacon d'albâtre répandit de nouveau quelques gouttes de parfum, puis elle tendit à Procla la romaine. À son tour, en signe de foi, elle versa elle aussi quelques gouttes du baume sur le corps de Jésus qu'elle contempla, le cœur battant, les yeux brillants. Stamater de Zoltán Kodály pour retrouver la Vierge au pied de la croix. Alors, elles sont toutes, Christine Pellistrandi, dans votre livre « Moi proclame, femme de Ponce Pilate » publié au Cerf, elles sont toutes au pied de la croix. Certaines peuvent s'avancer davantage, d'autres doivent rester un peu en dehors. Qui gère le protocole? Comment ça se passe?
C'est le centurion. Le centurion qui est le chef de...
Et là, vous faites une pirouette romanesque.
Mais oui, je fais une pirouette romanesque parce qu'effectivement, il y a le fameux... Mais je vais vous dire quelle est l'origine de ma pirouette.
Allez-y.
Vous savez que le cardinal Lustiger, que j'ai bien connu, se servait des personnages de l'Évangile lui aussi. Et c'est lui qui, dans une de ses homélies, avait fait le rapprochement entre le centurion qui dit à Jésus « Mon serviteur est très malade ». Et Jésus lui dit « Je vais venir chez toi ». Et c'est lui qui avait fait le rapprochement entre ce centurion-là et le centurion qui est au calvaire.
Et ça qui m'est resté, vraiment, c'était le Fils de Dieu.
Ça m'est resté...
Oui. Celui qui fait la confession.
C'est, voilà.
C'est vraiment celui-là qui était le Fils de Dieu. Première confession par un païen.
Par un païen, oui.
Et c'est lui qui ne casse pas les jambes, mais qui perce le flanc du Christ.
Exactement.
Et donc pour vous, par l'intuition de Lustiger, oui, de Monseigneur Lustiger, pardon.
Exactement. du coup, ça m'était toujours resté, ouais, ouais. Et c'est comme cela que je l'ai introduit.
Dans la continuité un peu de, justement du lien avec le monde romain, il y a une chose très surprenante quand même un peu dans l'histoire générale. On déborde votre livre, mais oui. comment se fait-il que le christianisme soit répandu si rapidement à Rome et dans le monde antique? En fait, il y avait forcément une attente du message de l'Évangile pour que en quelques décennies. Oui, les chrétiens ont été très très,
oui,
très,
c'est très extraordinaire.
Nombreux, très très présents.
Parce que quand on pense que, disons 20 ans après, à Rome, et puis il y a tous les voyages de Paul, et il va y avoir... Ce qui est intéressant, c'est de voir autant, si vous voulez, Pierre et les apôtres entrent dans la prière des psaumes et comprennent après la résurrection ce qui s'est passé. Ils ont mis du temps, il y a eu la Pentecôte entre temps, tout ça, ça les a aidés. Mais les autres, les païens, ils n'avaient pas d'arrière-plan culturel, ils n'avaient pas de formation biblique.
Ils n'attendaient pas le Messie.
Ils n'attendaient pas le Messie et pourtant ils vont adhérer. Ouais. Et ça, c'est formidable.
Oui, il y a quelque chose de tout à fait décisif. Ça.
Dans votre livre, il y a. Il y a toute la féminité qui est là, naturellement, et toutes ces femmes de l'Évangile. Et il y a quand même un certain dolorisme. Est-ce que féminité et dolorisme ne vont pas ensemble dans votre livre? Est-ce qu'ils ne sont pas en parallèle?
Ben, il y a quand même, si vous voulez, l'évocation des femmes de Jérusalem, qui sont les mères du massacre des saints innocents. Et bien entendu, si vous voulez, en écrivant ce texte, j'ai pensé à ce qui se passait sous nos yeux, avec les mères d'immigrés qui portent leurs enfants dans des bras et qui essayent de les sauver. Et par conséquent, dans le texte biblique, et en particulier chez les prophètes, on voit, si vous voulez, le problème de la violence, le problème de la misère des mères, la misère d'enfants. Et cette réalité-là, cette réalité historique dans laquelle nous sommes plongés, qui est notre réalité quotidienne, il y a fait partie de notre foi. Et nous n'avons pas à l'éliminer, nous avons à l'assumer. Et c'est la raison pour laquelle ces femmes-là, si vous voulez, nous ne sommes pas dans du rêve, nous ne sommes pas dans un idéal, nous sommes dans une réalité historique, violente, et qui est celle de notre vie quotidienne.
Ce que vous résumez par une tête de chapitre, souffrante mais vivante.
Oui.
Jean-François Roth, qu'est-ce qu'on va aller prendre sur les tables, pas voler, prendre, hein, sur les tables de la
Bien procure. Sûr. Eh bien, je continue par une femme aussi, Marie Noël, on en parle beaucoup ces temps-ci, on va en reparler, en particulier aux conférences de Notre-Dame.
Mais
j'avais envie de signaler un livre qui n'est pas tout à fait récent, mais qui est tout à fait passionnant et formidable pour découvrir Marie Noël. Donc, une grande poétesse, comme on veut, et on a heureusement pour nous, la correspondance avec l'abbé Munier. Alors l'abbé Munier, c'était un prêtre, disons, mondain, sauf qu'il était réellement prêtre. Il était, avait une grande largeur d'esprit, il était, on dit, c'est le confesseur de tout Paris. Alors il était dans les salons, il était très à l'aise dans les salons, très spirituel et plein d'esprit, donc il était très apprécié, et en fait, il était très attentif, comme elle dit, très attentif aux personnes, et il était...
Et il faut lire le journal de l'abbé Munier, et notamment ce qu'il dit en 1905, au moment de la loi de la séparation des biens de l'Église et de l'État, et il décrit ce qui se passe à Saint-Pierre du Gros Caillou. C'est une page absolument extraordinaire. Vraiment, le journal de l'abbé Munier qui est très spirituel au-delà du côté mondain.
Tu as tout à fait raison de souligner combien ce journal est tout à fait intéressant.
Ouais.
Et là, c'est une correspondance donc avec Marie-Noël. Marie-Noël s'adresse à Munier justement sur sa réputation, parce qu'en fait, elle lui demande d'abord, tenez-vous bien, des conseils de lecture. Et elle est un peu scrupuleuse. Elle dit, oui, il y a des livres formidables que j'aime beaucoup, mais qui sont à l'index. Alors, est-ce que j'ai le droit, etc. Alors, l'abbé Munier commence par lui donner beaucoup de largeur d'esprit. Et après, tout d'un coup, on voit au fil des livres, des lettres, il découvre à qui il a affaire. Il pensait que c'était une jeune femme un provincial, un peu, voilà.
Pénitente.
il apprend, pas tout à fait de haut au début, mais enfin, bon, comme ça. Et petit à petit, il se rend compte qu'il a affaire à une personnalité exceptionnelle, une femme d'une grande, de grande classe et une poétesse de grande classe. Et donc, on a un livre, enfin, un recueil de leurs échanges.
Génial.
Et l'amitié se développe entre eux, ils l'expriment très, très bien. Et comme ils savent écrire tous les deux, c'est génial. Je cite souvent ce passage-là de Marie-Noël, au fond de, comme ça, au milieu d'une lettre. Je sais maintenant par cœur en latin le Veni Creator Spiritus, et je trouve que c'est la prière la mieux faite pour mon âme que j'ai jamais récitée. J'en use et j'en abuse. Tantôt je demande l'eau pour ma sécheresse, tantôt le feu pour mon frisson, tantôt la lumière pour ma nuit. Et je trouve tout.
C'est magnifique.
Mais c'est quand même formidable. Oui, au milieu d'une lettre comme ça, mine de rien.
Et c'est important de retrouver
aussi. Ça s'appelle
aussi.
J'ai bien souvent de la peine avec Dieu. Oui, j'aurais pu expliquer le titre parce qu'elle était, elle avait toujours aussi. Elle n'était pas du tout, comment dire, confite en dévotion. Elle était toujours en train de se battre pour avoir une vraie dévotion.
Encore une femme qui cherche dans la foi. Merci Jean-François Rod. Merci Christine Pellistrandi. Je rappelle votre nouvel ouvrage, Moi proclame femme de Ponce Pilate aux éditions du Cerf. Merci à Jean-Paul Lirine pour la réalisation, François Dieudonné, Philippe Malpeuch et Camille Meyer pour la réussite technique de notre rendez-vous. Demain, c'est vendredi et nous allons au théâtre pour aller voir à l'ornée. N'oubliez pas, Pauvre Beatles de Jean Anouilh au Théâtre Héberto, c'est un événement. Allez, bonne journée à tous, prenez soin de vous et des autres.